Bienvenue au balado Les Petits Caractères, l'espace de discussion qui vise à poser un regard critique sur les enjeux de consommation qui vous préoccupent. Mon nom est Marianne Spear, je suis votre animatrice et aujourd'hui, on débute en parlant de cybersécurité. En la gestion des mots de passe, c'est quelque chose qui commence à prendre de plus en plus de place dans notre quotidien. Faut s'en souvenir, on en a pour tout. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, on va arriver à vous alléger la tâche en discutant de la gestion des mots de passe avec l'avocate et conseillère juridique Sarah-Ève Levac de Option Consommateur. Allô, Sarah-Ève.
Bonjour, Marianne.
Fait que la gestion de la cybersécurité, qu'est-ce que tu aurais à nous dire là-dessus?
Oui, bien, c'est ça. Dans le dernier balado des vœux de Noël, je vous avais souhaité plus de vigilance.
Oui.
J'avais mentionné qu'il y avait plus de pertes financières reliées aux fraudes. Il y a aussi plus de vols d'identité qui sont rapportés au Centre antifraude du Canada. Et avec la pandémie, là, on a fait de plus en plus d'achats en ligne. On s'est inscrit à des comptes en ligne. Hein. On a eu beaucoup de temps pour visionner des films sur Internet. On s'est peut-être inscrit pour s'entraîner en ligne. Donc, on a de plus en plus de comptes en ligne. Et donc, à chaque fois qu'on crée un de ces comptes-là, on donne nos renseignements personnels. Et il y a des risques là, reliés à ça d'avoir notre identité usurpée.
Ouais.
Et donc, je voulais parler un peu de cybersécurité, jaser un peu de comment mieux se protéger en ligne quand on fait affaire avec des commerçants en ligne. C'est sûr qu'il n'y a pas de risque zéro. Donc là, c'est une idée de l'idée, c'est de parler un peu de trucs pour mieux se protéger, mais...
Non, c'est pas en 15 minutes qu'on va arriver, oui. Tout le monde, là, à contrer toutes les menaces d'Internet.
Non, c'est ça. Des fois, il y a des situations qui sont totalement hors de notre contrôle. Par exemple, s'il y a des fuites de données chez une entreprise, mais il y a des moyens qu'on peut prendre pour mieux se protéger. Et la première façon qu'on a de s'identifier dans ces multiples comptes-là, c'est par nos mots de passe. Et donc, l'idée, c'est de parler un peu de comment avoir des bons mots de passe et de gestion de mots de passe en ligne.
Oui, parce qu'à chaque fois qu'on vient pour en créer un, maintenant, ils nous mettent un peu notre degré de sécurité. Ils disent comme c'est un mot de passe faible, c'est un mot de passe fort. Mais les mots de passe forts, ils semblent tellement compliqué à se rappeler. Là.
Oui, c'est ça. Bien, ça dépend des sites. Effectivement, il y en a qui vont nous avertir si notre mot de passe est faible ou fort. Donc, ça peut être une bonne idée de vérifier ça, effectivement, pour avoir des meilleurs mots de passe.
Il y a même des sites qui n'acceptent pas que ton mot de passe soit faible. T'sais, ils disent mot de passe trop faible. T'sais, ton nom, ta date de naissance, là, non.
Effectivement, c'est ça. La première idée, c'est d'avoir un mot de passe qui est fort.
Qu'est-ce que c'est un mot de passe fort?
C'est quoi un mot de passe fort? L'idée, c'est d'avoir un mot de passe qui est difficile à déchiffrer ou à deviner. Donc, par exemple, il y a des listes de mots de passe fréquents qui existent, qui sont connues par les arnaqueurs. Donc, c'est d'éviter des mots de passe qui sont fréquents, là, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, des « I love you », des « password » avec ses variations, avec un signe de dollar ou un zéro à place du haut. C'est des mots de passe qui sont fréquents, en fait. Et quand les arnaqueurs utilisent parfois des attaques là, par des noms du dictionnaire, c'est possible de deviner, dans le fond, ces mots de passe-là. Donc, l'idée, c'est d'éviter des mots de passe qui sont fréquents et faciles à deviner. Et aussi d'éviter des mots de passe qui sont des informations personnelles facilement retrouvables en ligne. Par exemple, si ton mot de passe, c'est Fido et c'est le nom de ton chien, bien, c'est des informations qui sont facilement retrouvables sur les réseaux sociaux si tu partages des photos là, de ton animal.
C'est un compte Instagram pour ton Fido.
Oui, c'est ça.
Fait que ça serait quoi les bonnes pratiques à avoir?
Si je prends, par exemple, le commissariat à la vie privée du Canada, qui est un organisme fédéral dont le mandat est de protéger la vie privée, une de ses recommandations, c'est d'avoir au moins 8 caractères. Donc, l'idée, c'est que plus de caractères vont apporter plus de sécurité parce que c'est plus difficile à déchiffrer. Donc, au moins 8 caractères, un mélange de nombres de caractères, donc spéciaux, là, et de lettres, donc, parce que ça les rend plus difficiles à déchiffrer et à deviner.
Je regardais un peu là-dessus aussi là, en prévision de notre sujet d'aujourd'hui, puis il y a un truc, moi, c'était sur le site du gouvernement du Canada que je trouvais bien bon, puis c'était de prendre 3 noms d'objets qui sont autour de vous, qui n'ont aucun rapport, que personne ne pourrait deviner, là, parce que ça n'a pas de lien avec votre vie personnelle, encore une fois, puis de toujours comme prendre ces 3 mots-là, puis de faire des variantes par la suite avec les chiffres ou de trouver des trucs comme ça. Là.
Oui,
c'est... Mais de prendre 3 mots qui étaient comme complètement hors contexte, là, je trouvais que c'était quand même pas pire. C'est peut-être d'ajouter comme le nom du site ou quelque chose comme ça, mais toujours avec les 3 autres mots qui... n'ont pas de lien. Là.
Oui, c'est une des recommandations, effectivement, ouais. d'utiliser des cool. mots. Des mots là, qu'on va pouvoir se souvenir. Donc, si je prends micro, plante, écran, mm. donc de faire un mot de passe. Mais on va parler aussi des questions de phrases de passe un peu plus loin, qui est un oh. autre truc aussi pour avoir des mots de passe plus forts. Et... donc, des mots de passe forts, des mots de passe qui sont aussi différents. Okay. Pourquoi? Donc, des mots de passe qui sont différents pour chacun de nos comptes. Donc,
les trois mêmes ouais. mots pour chaque, non, effectivement, pour chaque compte, ça ne fonctionne pas. C'est ça, il faut aussi des mots de passe ouais. différents.
Parce que les gens avaient tendance, en tout cas, selon les études, à réutiliser les mêmes mots de passe ou des mots de passe avec des variations. Donc, si c'est Fido pour Facebook puis Fido 1 pour Instagram, ben là, si mon mot de passe est compromis dans un compte, c'est quand même facile d'avoir accès à d'autres compte si mes variations sont simples et prévisibles comme ça. Donc, des mots de passe différents pour chaque compte. Et aussi, très important, des mots de passe pour ces appareils. Parce que si j'ai pas de mot de passe sur mon portable et que mes comptes sont déjà ouverts sur mon portable, quelqu'un a accès à tous mes comptes. Là, si je le perds, s'il se fait voler. Même chose pour le téléphone cellulaire.
Puis même chose au niveau c'est du code 000, c'est peut-être pas le plus, oui, le plus difficile à deviner. Là,
fait si 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas un bon mot de passe, c'est pas non plus un bon code pour le téléphone cellulaire.
Parfait. Puis sinon, à quelle fréquence on devrait changer notre mot de passe? Oui. J'aimerais tellement que tu me dises jamais, là, parce que c'est tellement rendu une tâche, la cybersécurité. Justement, en prévision de l'épisode d'aujourd'hui, oui. j'ai regardé sur mon iPhone les alertes de sécurité mm-hmm. que j'avais. Puis j'avais comme 72 mots de passe à mettre à jour, puis je l'ai fait.
Oui.
Je l'ai fait, ça m'a pris comme 2 heures, mais je me dis que si je me mets plus à la tâche, mettons à chaque mois, ça va pas me prendre 2 heures, ça va être un 20 minutes. Mais j'aimerais que ça soit pas une tâche qui prenne autant de temps dans mon agenda. Là. Fait que quand est-ce qu'il faut changer notre mot de passe?
Ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que il y a des études qui démontrent que changer de mot de passe, c'est peut-être pas super efficace.
Oh.
Donc, il y a certaines institutions qui commencent à dire que c'est pas nécessaire de changer toujours ses mots de passe. Donc, si je prends
prioriser
par exemple...
Prioriser la qualité à la
oui,
quantité.
C'est ça.
Avoir un bon mot de passe à la base.
Parce qu'effectivement, les gens, on s'est rendu compte que les gens changeaient leur mot de passe un peu comme j'expliquais tantôt, Fido 1, ben ils mettaient leur mot de passe. Après ça, c'était mot de passe 1, mot de passe 2. Donc, ça devenait facile de changer de suivre la tendance. Puis aussi, difficile de se rappeler de tous ces mots de passe-là. Tu disais que tu en avais 72, mais j'ai lu des sources qui disent qu'effectivement, en moyenne, on a 80 mots de passe à se rappeler. Donc, si on les change à tous les 3 mois, ben ça devient vraiment difficile de se souvenir de tous ces mots de passe-là.
Mais je confirme la tendance et l'étude.
Oui, c'est ça. Mais c'est ça, le gouvernement américain a commencé à changer ses politiques pour l'idée de changer ses mots de passe à tous les 3 mois. La Commission nationale de l'information et des libertés, qui est un organisme public français qui est chargé de la protection des renseignements personnels, disait aussi que c'était peut-être pas efficace de changer ses mots de passe à des périodes fréquentes, donc à tous les 3 mois. Mais c'est quelque chose que vous pouvez évaluer. Là, si on parle d'un compte qui est très sensible, par exemple, votre institution bancaire, ça peut être une bonne idée pour celui-là de le changer fréquemment. Et donc, un compte qui est moins sensible, c'est peut-être possible d'avoir un bon mot de passe qui est fort, mais pas de le changer là, fréquemment à tous les 3 mois.
Ouais, j'essaie de penser à un autre site que notre compte bancaire là, que ça pourrait être aussi important, mais je pense que c'est pas mal le plus important, ça. Puis comme Dossier Canada, Dossier Québec.
Oui, c'est aussi possible de faire un compte pour avoir ses résultats médicaux en ligne. Ah. Donc peut-être que celui-là aussi, là, vous voudriez changer vos mots de passe. Oui.
Puis sinon, il faut faire des mots de passe difficiles, mais est-ce qu'il y a des trucs pour qu'ils soient faciles à retenir pour nous, ça. Mais tout aussi difficiles pour les arnaqueurs de les deviner?
Mais c'est ça. La moyenne de 80 mots de passe, c'est beaucoup, mais il y a des trucs pour essayer de les retenir ou pour mieux les gérer. On parlait tout à l'heure des mots, mais un autre truc aussi, c'est les phrases de passe. Je ne sais pas si tu en as entendu parler.
Je l'avais vu vite sur le site dont je te parlais tout à l'heure. Là.
Oui. Donc, l'idée, c'est de créer une phrase, d'avoir une phrase en tête puis créer un mot de passe à partir de cette phrase-là, en utilisant par exemple la première lettre de chaque mot, en s'assurant d'avoir des chiffres puis des caractères spéciaux. Donc, Je me suis inscrite à un exemple. Là. J'avais écrit en 2005, pendant mon échange en Europe, mon numéro de dortoir était le 34. Donc là, j'utilise chaque lettre, première lettre de chaque mot. J'ai des mots en majuscule. J'ai change le numéro pour le signe de numéro. Mm-hmm. 34, je peux finir avec un point d'exclamation. Et là, j'ai un mot de passe qui est une série de lettres et de chiffres qui est difficile à deviner parce que c'est pas un mot. C'est pas non plus le nom de mon chien ou le nom de ma mère. Donc, c'est un mot de passe qui est difficile à deviner.
OK. Ouais, ben juste pour le montrer, comme ben, pour donner une meilleure idée à ceux qui nous écoutent, la phrase dont tu viens de nous dire, elle se traduira en mot de passe par E05PEE, hashtag, carré, D34 avec un point d'exclamation. Ouais. Ça fait en effet un mot de passe assez compliqué. Qui...
Oui. Puis l'idée, c'est de se rappeler de sa phrase. Et après, c'est aussi quelque chose dont on doit se rappeler, là. Mais c'est quand même plus facile à se rappeler que si je prends un mot au hasard, puis après ça, il faut que je me rappelle quelle lettre j'ai changée, puis tout ça. Donc, ça peut être une façon.
Puis sinon, où on les garde, tous ces mots de passe-là?
Oui, c'est ça. C'est sûr que la façon la plus sécuritaire, c'est de les garder dans sa tête, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup à se rappeler.
La charge mentale, elle n'aime pas ce que tu viens de dire.
Oui, c'est ça. Une des recommandations, en fait, de certains experts en cybersécurité, c'est d'avoir un gestionnaire de mots de passe. Il y en a plusieurs types. Il y en a qui sont des fois intégrés dans les navigateurs, là, quand on ouvre notre navigateur qui dit se rappeler de son mot de passe. Donc, c'est possible que ça soit géré directement dans notre portable. Et il y en a qui sont aussi autonomes. Donc, ça, c'est des applications qu'on peut télécharger qui vont gérer nos mots de passe. Donc, c'est deux façons là, qui existent pour avoir des gestionnaires de mots de passe. Il faut savoir qu'il y a des avantages et des inconvénients.
Bien, c'est ça que j'allais dire. C'est bon, ces outils-là qui gardent, en fait, en stock, en information, nos mots de passe. C'est comme Google, je pense à Google, qui garde tous nos mots de passe. Moi, j'hésite tout le temps à faire oui, souvenez-vous-en ou pas. Finalement, qu'est-ce qu'on devrait faire? Je serais-tu mieux avec un gestionnaire indépendant?
Avoir un gestionnaire de mots de passe, c'est recommandé par certains experts en cybersécurité. Mais comme je disais, il y a des pour et des contre. Donc, l'idée, c'est de donner les informations aux auditeurs pour qu'ils puissent faire des choix éclairés.
Par eux-mêmes.
Donc, les avantages de ces gestionnaires-là, c'est que c'est pratique, hein, c'est facile, ça apporte une certaine paix d'esprit. On n'a plus besoin de se rappeler de tous ces mots de passe-là. Ça, c'est autant si vous l'avez sur votre navigateur ou si vous l'avez dans une application que vous avez téléchargée. Ça peut favoriser aussi des mots de passe plus complexes. Donc, je parlais des phrases de passe, mais les gestionnaires de mots de passe peuvent aussi vous proposer des mots de passe qui sont des mots de passe qui vont être plus forts avec des ensembles de lettres, de chiffres, de symboles. Et elles peuvent aussi vous informer si vos mots de passe sont trop faibles, comme tu disais plus tôt, là, quand on crée nos mots de passe sur des sites.
Oui.
Le gestionnaire aussi, lui-même, peut vous dire ce mot de passe-là est trop faible. Donc, des suggestions d'améliorer les mots de passe qu'on crée pour des comptes. Et ça décourage aussi le fait de réutiliser les mêmes mots de passe sur plusieurs comptes, étant donné qu'on n'a pas besoin de se rappeler là, de ces mots de passe-là qui sont gérés. Il y a aussi des gestionnaires qui vont même vous avertir quand il y a des sites web qui ont été compromis ou il y a eu des fuites de données. Donc, c'est aussi une protection supplémentaire là, d'avoir ces gestionnaires-là.
Fait que t'as pas vraiment à penser à quand est-ce que tu dois changer tes mots de passe. C'est, ça te le dit quand tu as un mot de passe qui a pu être compromis ou autre.
Je pense que l'idée, c'est que s'il y a une fuite sur un certain site et que c'est connu, vous allez avoir... l'information, oui, c'est ça.
Mmh. Bien, sur iPhone, je sais qu'il montre, là. C'est avec ça que j'ai fait justement ma grande mise à jour. Puis les inconvénients?
Oui, les inconvénients. Bien, il y a certains services qui vont engendrer des coûts. Donc, si vous avez affaire avec une application à télécharger, il y en a certains qui vont vous demander de payer. C'est aussi une concentration de tous nos mots de passe à un endroit singulier. Donc, si jamais il y a une fuite de données dans... Le service de gestionnaire de mots de passe, mais là, tous vos mots de passe sont compromis. Il faut donc faire attention, là, y penser.
Quel mot de passe on veut qu'il se retrouve dans le gestionnaire, en fait?
Oui, c'est ça. Bien, premièrement, Il y a des gens qui avaient tendance à avoir un mot de passe du gestionnaire qui était faible. Donc ça, ça mettait à risque tous les autres mots de passe. Donc l'important, c'est d'avoir un mot de passe fort pour le gestionnaire de mot de passe.
Ah, ben
et
oui.
aussi, penser justement au compte que vous voulez mettre sur le gestionnaire. Donc, c'est pas recommandé d'utiliser ce gestionnaire-là pour des comptes très sensibles comme le compte de banque. Oui, effectivement.
Mais est-ce que tu aurais d'autres conseils par rapport au gestionnaire de mot de passe?
Oui, donc activer l'authentification à double facteur. Donc, si vous utilisez un gestionnaire de mot de passe, ça, c'est une protection supplémentaire. Donc, quand on vient pour ouvrir le gestionnaire et qu'on doit rentrer notre mot de passe, bien là, il va y avoir une deuxième couche de sécurité, soit par l'envoi d'un texto sur votre téléphone ou d'un courriel, ou même demander parfois de s'identifier par de la biométrie, donc son visage, pour protéger, en fait, l'accès là, au compte.
Puis ceux qui préféraient vraiment garder leur mot de passe papier-crayon, est-ce qu'il y a des petits conseils au niveau de ça?
Oui, c'est ça. Oui, effectivement, c'est possible d'utiliser la bonne vieille méthode papier-crayon. Dans ce cas-là, si vous voulez les écrire... quelques bonnes pratiques, premièrement, c'est pas de les mettre à la vue. Donc, si vous avez un post-it là, sur votre portable avec les mots de passe, c'est pas recommandé. L'idée, ce serait de le mettre dans un endroit qui est secret, qui est sûr, préférablement sous verrou. Et ce qui est possible, même en plus, ce serait d'éviter d'écrire les mots de passe au complet et de se donner des indices. Mmh. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple du dortoir, là, la phrase de passe que j'ai donnée tout à l'heure, je peux écrire dans mon calepin, bon, pour Facebook, mon indice, c'est dortoir, et là, je peux me rappeler de mon mot de passe sans l'avoir écrit au long.
Super! Est-ce que tu voudrais terminer avec autre chose parce qu'il nous reste déjà plus beaucoup de temps?
Bien, je vais simplement terminer en disant que on peut avoir les meilleurs mots de passe, des mots de passe forts, mais il faut aussi bien les protéger. Donc, j'expliquais si on les écrivait, de les mettre dans des endroits sûrs, mais il faut aussi pas les partager avec nos proches, nos amis. Faire attention là, aux textos, aux messages, courriels d'hameçonnage où les fraudeurs vont essayer de nous amener à soutirer des renseignements personnels ou à donner nos mots de passe. Et aussi faire attention à certaines choses comme fermer vos sessions dans vos comptes, comme ça si jamais votre portable est perdu, même si vous avez des mots de passe, ben c'est une protection de plus que vos comptes soient fermés.
Non, mais ça, c'est des bons petits trucs simples.
Oui. Évitez aussi les Wi-Fi publics, là, parce que c'est possible que nos informations soient interceptées. Et vous pouvez aussi paramétrer là, vos comptes de la confidentialité de vos comptes sur les réseaux sociaux, parce qu'on partage beaucoup d'informations qui peuvent être des mines d'or là, pour des fraudeurs, qui sont des renseignements personnels.
Absolument.
Qui peuvent en partie aider à connaître nos questions de sécurité à nos comptes si on a perdu nos mots de passe. Donc, quelques petits trucs de plus là, pour avoir des protection supplémentaire en ligne.
Merci beaucoup, Sarah-Ève.
Merci. Bonne journée.
Bonne journée. On continue le podcast avec une prochaine chronique, cette fois-ci de Alexandre Plourde, avocat chez Options Consommateurs. Il va nous parler de l'argent qui semble disparaître. Le partez pas en peur. On parle de l'argent comptant ici qui est de moins en moins utilisé. Allô, Alexandre?
Bonjour, Marianne.
Fait que, qu'est-ce qui se passe avec notre argent? Là, on ne pourra plus l'utiliser?
Ben, en fait, aujourd'hui, là, je voudrais parler d'un sujet qui me hante constamment puis qui est encore revenu récemment dans l'actualité, à savoir le refus de l'argent comptant par les commerçants. Il y a de plus en plus de commerces qui décident de refuser les paiements en espèces dans leurs établissements. Dernièrement, il y avait le Journal de Montréal là, qui mentionnait qu'il y a maintenant des cafés, des boulangeries, des magasins de vêtements, des restos qui refusent maintenant le liquide. Puis, on peut s'attendre à ce que cette tendance-là elle continue dans les prochaines années.
Mais j'arrive vraiment pas à comprendre c'est quoi l'avantage du commerçant parce que c'est comme le moyen de paiement qui leur coûte le moins cher.
Ben moi, personnellement, je trouve pas que c'est un grand mystère de comprendre pourquoi les commerçants
T'es-tu en train de dire que je suis niaiseuse?
Non, mais il y a des facteurs explicatifs à ça.
OK, ben je t'écoute.
Qui se mettent subitement à plus vouloir de liquide. Puis la raison principale, c'est parce que l'usage de l'argent comptant, il est en chute libre au Canada. Selon les statistiques de Paiement Canada, en 2021, il y avait tout au plus 10% des transactions qui étaient encore payées en cash. Puis c'est probablement encore moins aujourd'hui, en 2023. Probablement que toi-même, Marianne, tu payes de moins en moins d'argent comptant.
Oui. Oui, puis quand j'utilise l'argent comptant, c'est souvent parce que je suis comme short sur mon budget. Ben je suis serrée dans mon budget, fait que je me sors de l'argent comptant puis je me dis, c'est là-dessus qu'il faut que je vive. Là,
ça, pour, c'est un vieux truc budgétaire, effectivement, pour contrôler ses dépenses. Mais l'argent comptant, il est vraiment en chute libre. En fait, il y a eu une chute de 62 % des transactions en argent comptant dans les cinq dernières années, ce qui est vraiment énorme. Puis face à ça, ben il y a bien des commerçants qui se disent maintenant, ben ça pourrait être une bonne idée de carrément arrêter d'accepter le cash, que ça leur ferait économiser des frais de gestion, des frais de manutention, que ça serait peut-être plus sécuritaire pour leur commerce. Puis de toute façon, ben, il n'y a plus personne qui l'utilise, donc ça ne leur fait pas nécessairement perdre la clientèle.
Ouais. Non, je comprends, parce que moi, je me disais, tu sais, je pense que la carte de crédit, c'est ce qui leur coûte le plus cher sur le terminal, parce qu'ils doivent payer toujours un frais pour la transaction. Ouais. Après, la carte de débit, c'est ce qui leur coûte le moins cher sur le terminal, mais je pensais que le cash, c'était ce qui était le plus économe pour eux, là, mais je n'avais pas pensé à tous les frais de gestion.
Qui calculent que ça leur revient quand même un peu cher d'accepter l'argent comptant. Pourquoi? Parce qu'il faut que quelqu'un compte l'argent à la fin, il fasse la caisse. Il y a des enjeux de sécurité liés à ça. Ils ont peur que, par exemple, un employé les vole ou qu'il soit victime d'un vol à main armée. Donc, pour se rassurer, ils utilisent une formule sans argent comptant. Pendant la pandémie, le gros argument pour refuser l'argent comptant aussi, c'était la transmission du virus. L'argent c'est comptant, simple. C'est sale, là, donc on pourrait transmettre le virus.
J'ai une mini-anecdote là-dessus, puis on a le temps, là, mais au début de la pandémie, tu sais, quand on n'avait aucune information sur le virus, puis on croyait un peu tout, là, ma coloc, elle avait vendu quelque chose sur Marketplace, puis la personne nous avait payé en cash, puis on avait lavé l'argent, comme avec de l'eau de Javel.
Mais les premières semaines, ça a été beaucoup ça, là. Ça a été la pandémie aussi du refus de l'argent comptant, au début de la pandémie, parce que plein de commerçants pensaient qu'ils allaient transmettre le virus avec l'argent comptant, mais finalement, ça s'est avéré, il y a eu des études qui ont été faites par la suite, que c'est pas de la façon nécessairement que ça se transmet, le virus.
Oui, le virus restait pas hyper
sur les surfaces, effectivement. Puis, tu sais, j'admets que ça peut sembler anodin, le fait de refuser l'argent comptant, qu'il y a bien des gens qui utilisent à peu près pas l'argent comptant puis qui trouvent ça bien fatigant de se faire donner du petit change dans des transactions puis qui se disent qu'éliminer tout ça, ça serait un bien bon débarras. Sauf que le problème, Marianne, c'est qu'il y a plein de gens aussi qui pourraient subir les impacts de ces pratiques commerciales-là. Les plus grands utilisateurs de l'argent comptant, c'est les personnes les plus défavorisées économiquement, les plus vulnérables, les personnes à faible revenu, les aînés. Il y a plein de gens au Canada qui n'ont pas de carte de crédit ou même il y a des gens qui n'ont pas de compte bancaire. Puis pour qui l'argent comptant, bien, c'est vraiment important pour faire leurs achats. Donc, on pourrait se retrouver dans une situation où des personnes vulnérables pourraient soudainement être incapables d'acheter leur épicerie, d'acheter leurs médicaments ou faire d'autres achats là, de biens de première nécessité si plein de commerçants de services essentiels, de biens essentiels, décidaient de suivre cette tendance-là.
Mais je trouve ça vraiment difficile à imaginer que quelqu'un n'a pas de compte bancaire. Je ne savais pas que c'était une réalité.
Il y a un certain pourcentage de la population, là, selon les estimations, ça pourrait être 1 à 3 % qui n'ont pas de compte bancaire.
Okay.
Mais ce qui est encore plus fréquent, c'est des gens qui n'ont pas de carte de crédit.
Oui.
Puis la carte de crédit, si je veux faire des achats sur Internet, si je veux faire des achats un peu partout maintenant, ça commence à être un mode de paiement qui est indispensable, mais il y a des gens qui ont fait faillite, qui ont un mauvais dossier de crédit, ou toutes sortes de raisons, ils n'ont pas accès à ce mode de paiement-là, puis ils se trouvent exclus maintenant de plein d'espaces commerciaux, là. Puis ça soulève d'autres enjeux aussi, le refus de l'argent comptant. Je vais en nommer un rapidement. Tu as parlé un peu des enjeux budgétaires qui sont liés à ça, c'est-à-dire je peux contrôler mieux mon argent quand je dépense en argent comptant, mais aussi la protection de la vie privée. Le cash, c'est pas mal le seul mode de paiement qui est complètement anonyme, qui n'est pas traçable. Donc toi, Marianne, quand tu achètes, par exemple, du cannabis à la SQDC, si tu souhaites pas laisser de traces de ta transaction d'achat de drogue pour des raisons qui t'appartiennent, c'est légal d'acheter du cannabis, mais la seule façon de le faire, c'est en argent comptant. Parce que si tu payes par carte de débit, par carte de crédit, ça va laisser des traces en quelque part, puis ta transaction va être enregistrée. À toutes les fois qu'on me parle du refus de l'argent comptant, c'est-tu légal, ça, de refuser l'argent comptant? Puis, à cette question-là, je dirais que c'est une question qui reste encore débattable. C'est pas tout à fait tranché par la jurisprudence. Ouais. Mais généralement, ce qu'on peut considérer, c'est que dans la mesure où un commerçant, là, il met un avis clair, là, il met une écriture claire dans son commerce, comme quoi il refuse l'argent comptant, ou qu'il y a une clause claire dans le contrat à l'effet qu'il refuse l'argent comptant, ça pourrait tout à fait être considéré comme légal. Puis ça, c'est un problème pour moi. C'est un problème pour nous, chez Option Consommateur, évidemment. On veut que la loi change chez Option Consommateur pour s'assurer que les commerçants ait l'obligation d'accepter l'argent comptant, compte tenu des enjeux que ça soulève là, pour les consommateurs.
Ouais.
Mais ce qu'il faut savoir...
Je veux dire, on parle pas d'une carte cadeau, là. On parle d'argent à, son plus, à sa plus simple expression.
Qui est le mode de paiement le plus démocratique, le plus accessible? J'ai pas besoin de technologie particulière, j'ai pas besoin d'un bon dossier de crédit pour avoir de l'argent comptant. Tout le monde peut utiliser l'argent comptant, puis on l'utilise depuis des millénaires. Là. Donc, il y a pas vraiment de bon substitut à l'argent comptant. Il y a pas de remplacement à ce mode de paiement-là. Puis l'effet que ça a, bien, c'est d'exclure plein de gens d'espaces commerciaux. Mais on n'est pas des gargamelles, Marianne. Là. On est négociable.
J'ai pas dit ça.
Ça pourrait être une obligation d'accepter l'argent comptant qui est modulable, par exemple, à certains types de commerçants. On pourrait juste imposer, par exemple, aux épiciers ou aux pharmacies d'accepter l'argent comptant ou en fonction des heures d'ouverture. Dans d'autres pays, j'ai vu ça. Là. C'est en fonction des heures d'ouverture qu'on est obligé d'accepter l'argent comptant ou d'autres critères. Bon, on pourrait quand même négocier là, sur comment la loi pourrait prendre forme. Mais c'est pas comme si on était les seuls dans le monde non plus à avoir pensé à ça au Québec. Là. Il y a plein d'autres pays ailleurs qui ont déjà adopté des lois pour protéger l'argent comptant. Puis ça commencerait à être le temps de légiférer là-dessus, nous aussi.
Super. Ben, merci de nous avoir éclairés sur le sujet. À une prochaine chronique, Alexandre.
Ça me fait plaisir, Marianne.
Et merci à la maison de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un beau moment et que vous êtes bien outillés au niveau cybersécurité. Alors, je vous dis à la prochaine et merci encore d'avoir été parmi nous.